édition spéciale sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée, j'ai envie de dire, enfin au Brexit, parce qu'un accord a été trouvé, confirmation à l'instant de Jean-Claude Juncker qui dit que c'est un accord juste et équilibré, et Boris Johnson qui dit que c'est un excellent nouvel accord. Évidemment, on va y revenir tout au long de cette heure H. On va avoir tous les détails dans un instant avec Thomas Asportas et Delphine Liu, notre correspondante à Londres. On va en parler aussi avec Pierre-Jérôme Hénin qui est déjà en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été conseiller longtemps de Michel Barnier. Vous êtes aujourd'hui le patron de Progressive Company. Vous nous expliquerez un peu peut-être comment ça se passe, ces négociations en l'occurrence. Je sais que vous avez aussi le négociateur, peut-être qui vous a donné quelques informations supplémentaires. On en parlera aussi avec Yves Bertoncini, que vous connaissez bien, le président du Mouvement Européen pour la France, qui lui aussi a été le conseiller de Michel Barnier. Et puis Nicolas Bavrez, essayiste, historien. Mais pour l'instant, les détails, c'est avec vous, Thomas. Bonjour, Thomas.
Bonjour, Adige. Bonjour à tous. Et on file à Bruxelles. Nous attendons Delphine Liu, Olivier Mélan pour BFM Business. Bonjour, Delphine. Est-ce que vous en savez un peu plus sur cet accord qui a été officialisé il y a une demi-heure maintenant?
Non, pas vraiment. On attend évidemment la conférence de presse de Michel Barnier, le négociateur européen, qui devrait se tenir dans les minutes qui suivent. On sait depuis 5 jours de tunnel de négociation, on est passé à peu près par les montagnes russes. Hier, donc, un accord était à portée de main.
Delphine, Michel Barnier justement a pris la parole. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite, priorité au direct.
L'heure prévue parce que je souhaitais que le texte juridique dont il est question soit publié. Il vient de l'être de notre côté et il est donc à votre disposition dès maintenant. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. C'est le résultat d'un travail intensif des deux équipes de négociateurs que je veux personnellement remercier, l'équipe britannique évidemment, et notre propre équipe, pour leur ténacité et pour leur professionnalisme. Mais aussi le résultat du côté européen d'un dialogue permanent, d'une vraie confiance construite tout au long de ces 3 années avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, puisque nous avons, je peux vous le dire, mais vous le savez, réellement co-construit de notre côté nos positions et ce nouvel accord. Cet accord est agréé au niveau des négociateurs avec le président Juncker, qui a conclu ce matin avec le Premier ministre Johnson. Nous le présenterons tout à l'heure au Conseil européen à 27. Je veux d'ailleurs ici remercier personnellement pour sa confiance tout au long de ces 3 années le président Donald Tusk, secrétaire général du Conseil, et toute son équipe. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et en particulier et d'abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres, ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres et, je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. Certitude aussi pour les porteurs de projets innombrables, financés par le budget de l'Union européenne dans les 27 États membres et au Royaume-Uni, puisque grâce à cet accord, les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28. Certitude aussi pour toutes les personnes, les entreprises concernées par tous les autres sujets de la séparation. Je vous ai dit ici dans mon tout premier point presse il y a 3 ans que les conséquences sociales, humaines, juridiques, économiques, techniques, financières étaient innombrables. Pour toutes ces personnes et ces entreprises concernées par tous les autres sujets, il y aura désormais davantage de certitudes. Je pense à Euratom, je pense à la protection des droits de propriété intellectuelle existants, à la protection des indications géographiques, à la protection des données personnelles. Enfin, cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être une année ou 2 années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ladies and gentlemen, the UK government has wanted to open one point in the withdrawal agreement, a key point. The question of the protocol on Ireland and Northern Ireland. Throughout these negotiations, the EU and the UK were fully committed to protect peace, to protect stability on the island of Ireland. We had to reconcile 2 objectives. First, include a legally operative solution in the withdrawal agreement that would avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland, preserve the whole island economy and protect the integrity of the single market. Secondly,
c'est
a point extremely important to Prime Minister Johnson.
La traduction en anglais maintenant des propos du négociateur Michel Barnier qui annonce cet accord qui a été signé entre l'Union européenne et Boris Johnson. On l'écoute.
Have at times been difficult, but we have delivered, and we have delivered together. The solution that we found rests on 4 main elements. Number 1, Northern Ireland will remain aligned to a limited set of EU rules, notably related to goods. This means that all applicable procedures on goods will take place at the points of entry into Northern Ireland and not across the island.
C'est donc toujours Michel Barnier qui explicite les termes de l'accord qui a été trouvé, mais visiblement, ça a l'air encore assez compliqué du côté britannique. On apprend à l'instant que les travaillistes sont en train de... On dit qu'ils allaient rejeter l'accord, de même que les députés indépendantistes. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on ne connaît pas exactement pour l'instant les termes de cet accord. Pierre-Jérôme Hénin, je rappelle que vous avez été conseiller de longues années de Michel Barnier. Vous travaillez plus ou moins encore avec la Commission européenne. Pour l'instant, ça reste très à la surface des choses, donc, ce qu'on apprend à l'instant de la part de Michel Barnier.
Écoutez, c'est une bonne nouvelle qu'on soit enfin arrivé à un accord, mais le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est le passage devant le Parlement britannique, qui devrait normalement avoir lieu ce samedi. Il faut pour que le texte soit validé par le Parlement britannique, que Boris Johnson rallie une majorité de députés en faveur de ce texte, ce qui aujourd'hui est loin d'être fait. Il doit rallier des députés de son propre parti très eurosceptique, il doit rallier à son bord des députés nord-irlandais, ces fameux 10 députés nord-irlandais extrêmement sceptiques aussi, et il doit rallier un certain nombre de députés travaillistes.
A priori, parce que pour l'instant, vous voyez, tout est en train de se révéler. Ils ont dit que pour l'instant, ils ne soutenaient pas cet accord.
Absolument. Donc les choses sont loin d'être faites. Elles avancent lentement, mais sûrement, mais elles sont loin d'être faites. Et cette question des députés nord-irlandais est extrêmement cruciale. Michel Barnier vient de le dire, je le découvre en direct avec vous. Il n'y aura pas de frontières, ce qui était un point majeur, et notamment pour l'Irlande du Nord, pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, mais les biens qui rentreront en Irlande du Nord seront quand même contrôlés avant, peut-être en mer. Tout ça reste à préciser, il y a beaucoup de détails techniques qui restent à préciser, mais d'un point de vue politique, le plus dur encore reste à faire. Une manche a été remportée par Boris Johnson, reste à voir ce qu'il adviendra samedi prochain lors de la réunion du Parlement à Westminster.
Oui, la question pour pas se retrouver au point de départ, hein, parce qu'on se souvient qu'un accord avait été trouvé avec Theresa May, c'est simplement il faut franchir la barrière du Parlement. Vous avez raison.
Absolument.
Donc on peut espérer que Boris Johnson, s'il dit que c'est un excellent nouvel accord, il a quand même eu des assurances, parce que là ce qu'on est un peu étonné, on découvre l'information en même temps que tout le monde, hein, c'est que les travaillistes n'ont pas voté et ne vont pas voter, et que deux non plus les députés irlandais. Donc c'est là où on a un peu d'inquiétude tout d'un coup.
C'est pour ça que je dis que les jeux sont loin d'être faits. On se retrouve dans la situation dans laquelle s'est retrouvée Theresa May à plusieurs reprises. Je vous rappelle que le premier accord qui avait été agréé à la fois par les 27 et par le Royaume-Uni date de novembre 2018, il y a bientôt un an. Il est passé trois fois sans avoir été voté devant le Parlement britannique. Là, on est dans une situation similaire où à nouveau un texte va être présenté. Un certain nombre d'incertitudes règnent encore. Reste à savoir si entre maintenant, jeudi 17 et samedi 19, passage devant le Parlement, Boris Johnson arrivera à rallier autour de lui une majorité suffisante, c'est-à-dire de 320 députés qui votent en faveur de cet accord.
Oui. Est-ce que je crois qu'on va peut-être réécouter tout de suite Michel Barnier, le négociateur, qui donc s'est exprimé en français, qui s'exprimait en anglais, peut-être s'exprime-t-il toujours en anglais. Est-ce qu'on peut éventuellement réentendre le commissaire?
Mesdames, messieurs, enfin, au-delà de cette séparation et de l'accord de retrait, nous avons trouvé un accord, et c'est pour moi au moins aussi important, pour réviser la déclaration politique qui devra être adoptée par le Conseil européen et par le Parlement, et qui sera le cadre assez précis de la négociation ou des négociations qui vont maintenant s'ouvrir pour rebâtir un futur partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Pays ami, pays partenaire, pays allié. Sur ce point, le gouvernement de Boris Johnson a fait un choix clair sur le plan de la relation future économique. C'est le choix d'un accord de libre-échange. Toute référence à d'autres options, notamment l'option de créer éventuellement entre nous un territoire douanier unique, a donc été éliminée. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est, si je puis dire, notre proximité géographique, assez durable. C'est aussi notre interdépendance avec l'économie du Royaume-Uni, très forte. Nous sommes mis d'accord pour avoir des garanties solides, de level playing field, afin de permettre un accord de libre-échange ambitieux, ça veut dire sans tarifs et sans quotas. Sur ce point, je veux témoigner, pour en avoir souvent parlé dans mes différentes visites à l'intérieur de l'Union, que les États membres, tous les États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, évidemment les entreprises, les communautés d'entreprises que j'ai rencontrées sont extrêmement attentifs et resteront extrêmement attentifs à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition pour ce qui concerne les droits sociaux, la protection de l'environnement, les aides d'État et les questions de fiscalité. Au total, le niveau d'ambition de notre futur accord de libre-échange sera bien proportionnel au niveau et à la qualité des règles du jeu économique entre nous, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, voilà l'accord que nous avons conclu au terme de ces journées très intenses et même de ces nuits de négociations. Le texte juridique est maintenant disponible. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne lecture. Sur cette base, l'évaluation que nous présenterons tout à l'heure avec le président Juncker au Conseil européen est que nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Du côté européen, il appartient maintenant au Conseil européen d'apprécier le contenu de cet accord et ensuite, s'il le veut bien, au Conseil de l'approuver, tout comme le Parlement européen, que je veux remercier pour sa confiance et qui aura le dernier mot. Nous allons poursuivre ce processus dès aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de jours. dans le dialogue et dans le respect de nos institutions. Et je veux en conclusion vous dire que nous avons, et ça a été l'objet de mon travail et de ma mission depuis 3 ans, désormais une base juste et raisonnable, fair and reasonable, pour un retrait ordonné du Royaume-Uni qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et si je puis dire surtout, pour commencer, nous le souhaitons le plus tôt possible dès le 1er novembre, à travailler à un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Barnier.
Voilà, c'était donc Michel Barnier, le négociateur, qui, après 3 ans de travail, a trouvé un nouvel accord, avec un accord qui correspond à nos principes. En tous les cas, ce sont les propos que vous avez pu suivre de Michel Barnier. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec, je vous rappelle, Pierre-Jérôme Hénin, qui est à nos côtés, ancien conseiller de Michel Barnier. Et puis, à vos côtés aussi, Yves Bertoncini, qui nous a rejoint aujourd'hui, président du Mouvement européen. Bonjour.
Bonjour.
Pour la France, aussi ancien conseiller de Michel Barnier. Je crois que vous travaillez toujours avec lui. Donc, on va avoir les décryptages en première ligne. Et puis, historien, économiste, essayiste Nicolas Bavrès qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Nicolas et Emmanuel Le Chypre, économiste de BFM Business, pour voir peut-être l'aspect économique, si c'était important d'avoir cet accord ou pas. Juste, Pierre-Jérôme Hénin, comme vous avez suivi le début de cette conférence de Michel Barnier, est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 points que vous avez retenus ? Parce que pour l'instant, on va tout vous dire, on n'a pas l'accord devant nous.
Ouais, il y a un texte sur lequel Boris Johnson, le Royaume-Uni et les 27 se sont mis d'accord, comme ce fut le cas en novembre 2018 entre Theresa May et les 27. Il y a un texte, maintenant il doit être présenté, il doit obtenir l'aval du Parlement britannique. Alors d'abord cet après-midi, l'aval des conseils, du Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État ou de gouvernement qui sont réunis et qui consacrent leur après-midi à l'étude de ce texte et on l'espère à son approbation. Ensuite le texte va partir au Parlement britannique qui se réunit ce samedi, premier samedi où il se réunit depuis 1982. Et là, tout l'enjeu est que Boris Johnson réunisse autour de lui une majorité de 320 députés suffisante pour faire passer ce texte. Là, à mon sens, le plus dur reste à faire. Il a un certain nombre de personnes à rallier autour de lui, chose qui n'est pas faite. Que ce soit des travaillistes, que ce soit des Brexiteurs durs de son parti, que ce soit ces fameux 10 députés nord-irlandais. Donc, d'un point de vue politique, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ensuite, si ça passe devant, si c'est validé par le Parlement britannique, on a validé l'acte de divorce. Mais comme l'a rappelé Michel Barnier il y a quelques instants, il y a une vraie proximité qui demeure géographique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc il va falloir retisser des liens commerciaux qui va prendre, ce retissage va probablement prendre la forme d'un accord de libre-échange, mais dont il va falloir négocier les termes. Donc tout ça n'est pas encore réglé, il y a encore des mois et des années de travail devant nous pour reformer une sorte, ce que j'appellerais un pax entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Yves Bertoncini, donc il y a un point important pour poursuivre ce que vient de dire Pierre-Jérôme Hénin, c'est level playing field. Ça, c'est le point clé pour expliquer les termes économiques, justement, de cet accord. Il y aurait une frontière qui n'est non plus entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, le fameux backstop, mais qui se trouve quelque part en mer entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Alors, c'est quoi ce level playing field qui était une des bases d'achoppement de cette négociation ?
Mais c'est la volonté des Européens de continuer à pouvoir commercer avec les Britanniques dans des conditions équitables. La seule chose qui garantit ça, c'est l'appartenance pleine et entière au marché européen et à l'Union européenne, avec d'ailleurs la juridiction de la Cour de Luxembourg. Dès l'instant où les Britanniques décident de sortir, comment garantit cela ? Et ça va bien au-delà d'ailleurs des deux Irlandes. Comment va-t-on garantir dans le futur ? Et ça, c'était l'objet non pas seulement de l'accord de divorce, mais de la déclaration politique qu'a évoqué Michel Barnier et qu'a évoqué Pierre-Jérôme, c'est-à-dire comment on garantit que dans la relation future, il y aura une forme d'alignement réglementaire, et on verra les détails, entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Et puis, surtout, comment on contrôle tout cela ? Comment on contrôle tout cela ? Et quand vous évoquez la mer d'Irlande du Nord, il semblerait qu'ait été trouvé un compromis qui viserait à, effectivement, que des contrôles soient opérés ici, et pas forcément entre les deux Irlandes. Alors, mais aura-t-on des mécanismes qui permettent d'assurer la confiance des autorités et des acteurs économiques ?
Pardon, Yves Bertoncini, je propose qu'on écoute Michel Barnier, là, justement, qui pose la question, est-ce qu'on va trouver un accord ou pas au Parlement, cette fois-ci ?
Le président Juncker a fait son travail, et de notre côté, nous aurons fait notre travail après l'approbation du côté européen. Évidemment, comme depuis le début, le House of Commons devra se déterminer en responsabilité. Mais il faudra bien qu'un jour, dans cette assemblée, et moi-même, j'ai été parlementaire national très longtemps, on prenne ses responsabilités et que ce qui a été décidé par un référendum soutenu par les différents gouvernements britanniques avec lesquels nous avons négocié se mette en œuvre. C'est ça le moyen. C'est encore une fois un accord fair and reasonable, pour reprendre les propres mots de Boris Johnson. Et nous y sommes parvenus ensemble, dans le respect. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est une négociation qui est très compliquée. Et ça, maintenant, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Je suis négociateur de l'Union européenne. Je n'ai jamais voulu, même si ça m'intéresse beaucoup, me prononcer, porter des jugements, intervenir dans le débat politique britannique. J'ai toujours respecté et demandé qu'on respecte ce débat et ses procédures et ses débats. Ça a toujours été très stimulant de suivre la vie politique britannique. Mais je n'ai jamais voulu qu'on intervienne de notre côté. Ce n'est pas notre rôle. Voilà.
L'humour de Michel Barnier. Okay. Nicolas Bavrez, est-ce que pour vous, cet accord, vous poussez un ouf de soulagement ?
Bah, c'est évidemment une très bonne nouvelle, mais comme on l'a dit, le processus est loin d'être achevé. Donc, il y a une chose qui va être assez facile, c'est d'avoir l'accord des 27 sur ce texte, puisque le négociateur Michel Barnier et Jean-Claude Juncker trouvent que c'est un très bon texte, donc on ne voit pas tellement pourquoi les 27 s'y opposeraient. Comme on l'a dit, le moment clé, ça va être le Parlement britannique. On parle beaucoup des 10 députés unionistes, mais je rappelle surtout que pour l'instant, il manque 43 voix à Boris Johnson pour avoir une majorité au Parlement britannique. C'est ça qui va être décisif. Oui. Mais c'est vrai que dans l'environnement actuel, à la fois l'environnement des marchés qui est quand même extrêmement tendu, plus tous les problèmes géopolitiques qui s'accumulent en Asie et au Moyen-Orient, il est clair que si on arrive à pacifier cette question du Brexit, c'était à la fois un prétexte éventuel d'une secousse financière et par ailleurs un problème géopolitique supplémentaire. Donc ça serait vraiment une très bonne nouvelle. C'est évidemment un grand succès pour Michel Barnier si ça va au bout, et c'est un grand succès aussi, il faut le reconnaître, pour Boris Johnson.
Oui, à condition qu'il passe le Parlement. Emmanuel, avant de vous passer la parole, je propose qu'on aille à Bruxelles, où nous attend Delphine You, justement. Quelle est un peu l'ambiance à Bruxelles ? Est-ce que vous avez le texte ? Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, ils ont le texte, ça y est, vous pouvez le lire, Delphine.
Oui, alors le texte, évidemment, il va être disponible. Edwige, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Ce qui est certain, donc, c'est que l'Union européenne est parvenue à ses fins en ce qui concerne la frontière irlandaise, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frontière en dur entre les deux Irlandes. On a donc trouvé un moyen pour effectuer les contrôles douaniers nécessaires pour que l'Union européenne ne devienne pas une passoire, donc plutôt dans les ports, les aéroports. Et puis, il y a cette question dont on parlait à l'instant, très important, de la future relation avec le Royaume-Uni et ce leveling playing field, c'est-à-dire éviter à tout prix que le Royaume-Uni, après le Brexit, se lance dans une déréglementation environnementale, sociale. Il y a de vraies craintes à ça, parce que Boris Johnson et ses amis ultra-brexiteurs ont toujours évoqué le souhait de vouloir faire de Londres une Singapour sur la Tamise, et donc c'est ce que veulent à tout prix éviter les Européens, d'avoir donc un Singapour aux portes de l'Europe.
Merci Delphine You, surtout restez avec nous, puis quand vous avez ce texte, on pourra peut-être faire une explication de texte, parce que c'est sûr que c'est assez compliqué. Emmanuel Le Chypre, c'était important d'avoir cet accord. Enfin, je pense qu'il faut toujours parler au conditionnel, parce qu'il y a le Parlement, et puis il y a évidemment le Parlement britannique, surtout.
C'est-à-dire que la première réaction, c'est qu'on a envie de se dire, comme à chaque fois on croyait qu'on était au bout d'un processus et qu'on a montré qu'on pouvait encore repousser toujours les limites. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que d'abord, qu'est-ce qui fait que samedi, finalement, le Parlement britannique pourrait ratifier ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Admettons que le gouvernement britannique dise non. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de négociation d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que s'il y a des nouvelles élections, on renégocie avec un nouveau Premier ministre, ouais, une fois de plus, etc. Je pense d'abord, on est au bout
du
bout.
C'est ce que dit Michel Barnier. On va écouter sa réponse. Après, on pourrait commenter justement sur cette question.
Nous avons une ligne depuis le début. Et une attitude, je rappelle cela pour ceux d'entre vous qui sont arrivés en cours de route, si je puis dire, depuis 3 ans, cette route a été assez longue, c'est que J'ai toujours évité de travailler, de parler, de négocier avec de l'émotion ou de la passion. Même si j'observe que ça n'a pas manqué quelquefois, l'émotion ou la passion. J'ai travaillé sur des faits, des bases juridiques, des réalités, pour trouver des réponses objectives, juridiquement solides, opérationnelles, aux problèmes innombrables que pose le Brexit, un peu partout et un peu pour tout le monde, en particulier en Irlande et en Irlande du Nord. Donc, encore une fois, il y a des marges pour compléter, pour préciser. Par exemple, quand on évoque pour l'Irlande et l'Irlande du Nord le Joint Committee, qui va avoir des missions, des travails, il y a beaucoup d'outils dans notre traité qui vont donner l'occasion d'un travail commun pour le mettre en œuvre. Mais je pense que cet accord aujourd'hui est équilibré, qu'il est le meilleur possible, après toutes les adaptations que nous avons faites, et des changements importants, notamment pour l'Irlande et l'Irlande du Nord, puisque nous avons nous-mêmes accepté de supprimer le backstop et de le remplacer par une nouvelle approche, qui d'ailleurs justifie, j'ai dit que c'était un cornerstone, justifie cette procédure du consent. Oui. Pour que la solution que nous avons trouvée en Irlande et Irlande du Nord soit durable, il faut qu'elle soit soutenue démocratiquement. Et je trouve légitime que ce soutien démocratique soit vérifié régulièrement. C'est une des conditions. Voilà. Donc il y a eu des évolutions, mais nous avons gardé la ligne dans l'intérêt du Royaume-Uni qui veut sortir de l'Union européenne, du marché unique, de l'union douanière, et de l'Union européenne qui veut rester ce qu'elle est, un grand marché unique très fort et qui est beaucoup plus qu'une zone de libre-échange. Dans la défense de ses intérêts, nous avons, je pense, trouvé une bonne ligne de compromis dynamique, si je puis dire, entre le Royaume-Uni et nous. Voilà ce que je peux dire.
Pierre-Jérôme Hénin, je rappelle, vous avez été le porte-parole justement de Michel Barnier. C'est un soutien démocratique important, c'est un point clé. Ça a été un moment difficile, 3 ans difficiles. À mon avis, il y a encore une année de négociation, hein, peut-être pour mettre en place cet accord, sachant encore une fois qu'il faut ce soutien démocratique et qu'on ne l'a pas, comme le disait à l'instant Emmanuel Chypre et Nicolas Bavrez.
Oui, il y a encore un certain nombre d'étapes devant nous. Le passage, on l'a dit plusieurs fois, le passage devant le Parlement britannique, qui, s'il le refuse ce samedi, en théorie, le gouvernement britannique sera obligé de demander un nouveau délai de 3 mois qui nous conduira jusqu'au 31 janvier 2020. Espérons qu'on n'en arriverons pas là. Espérons que le Parlement britannique ce samedi validera cet accord. Mais ensuite, il faut retricoter une relation notamment commerciale avec le Royaume-Uni, ce qui, comme vous le dites, prendra du temps. Il y a une déclaration politique qui est adjointe au texte dont parle Michel Barnier et qui en fixe les grandes lignes de ce qui pourra potentiellement être un nouvel accord de libre-échange.
Oui. Yves Bertoncini, donc ça c'est on rentre finalement dans le dur en fait.
Mais voilà, là, oui, c'est juste.
On a l'impression que ça y est, c'est la fin du feuilleton.
Ah, mais le problème c'est que ce que dit Michel Barnier aujourd'hui, ouais, il l'a déjà dit 10 fois.
En effet, alors.
On a trouvé un bon accord, etc.
Il l'a déjà dit au moins une fois, puisqu'il y avait eu un bon accord. Et d'ailleurs, il faudra regarder, en gros, en correction apparente, ce qui a changé. Et il est vrai que Johnson aura pour lui d'avoir changé quelques lignes. Et Michel Barnier vient de le souligner, ouais, et notamment sur le statut de l'Irlande du Nord au regard du reste du Royaume-Uni. Mais ce que nous a aussi dit Michel Barnier, c'est que lui, il faisait preuve, j'allais dire, de raison à l'opposé de la passion et de l'émotion. Mais Westminster, c'est ça qu'on va trouver samedi. C'est ça qu'on trouve déjà aujourd'hui. Et comment Boris Johnson, qui, à la différence de Theresa May, n'a déjà plus de majorité à Westminster, va-t-il arriver à faire ratifier cet accord dès samedi? Alors, ce qu'il faut dire pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est que s'il n'y arrive pas, en effet, il y aura une demande d'extension. Peut-être qu'il y aura de nouvelles élections. Et à l'issue de ces nouvelles élections, les nouveaux députés pourront peut-être le ratifier, cet accord. Mais enfin, s'il fallait parier aujourd'hui sur la ratification de samedi...
Juste une question, ça nous... potentiellement, ça nous...
Il y a Emmanuel Macron qui s'exprime. J'aimerais bien qu'on puisse écouter Emmanuel Macron. Vous me dites...
31 janvier.
Oui. Nicolas Bavrez, un mot avant le président Macron qui s'exprime.
Un mot d'abord. C'est vrai que ça n'est qu'un accord entre les négociateurs. C'est vrai que le Parlement britannique est une étape très très compliquée. Cela dit, il y a deux éléments qui peuvent aller dans le sens d'une approbation. Il y a d'abord le fait que, y compris au Royaume-Uni, tout le monde est épuisé par ce dossier, et que la deuxième chose, c'est que si le Parlement le rejette, là, c'est clair qu'on va aller aux élections
et on écoute Emmanuel Macron.
Ce sera un sport à haut risque.
On écoute le président Macron.
Je pense que l'erreur est de confondre tous les sujets. Je l'ai dit hier. Je pense que l'erreur, c'est d'un seul coup de partir dans des sujets qui divisent la société, là où nous avons à faire face à une lutte contre des sujets qui devraient nous rassembler. La lutte contre la radicalisation, le combat contre le communautarisme, c'est-à-dire la sécession dans la République. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et mon rôle, c'est de conduire. D'abord, il y a une unité du gouvernement. Je l'ai redit hier, le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, l'ensemble du gouvernement travaille sur ces sujets ensemble.
Là, vous avez compris, c'est pas forcément sur l'accord du Brexit qui a été trouvé. En l'occurrence, on est plus revenu à des problématiques françaises. Donc, Nicolas, je vous redonne la parole, Nicolas Bavrez.
Non, simplement pour dire que on a quand même une source d'espoir, parce que au Royaume-Uni aussi tout le monde est épuisé, et que la situation qui s'installe commence par ailleurs à faire souffrir beaucoup l'économie, la société britannique.
À le coup de l'incertitude,
je pense que, y compris avec cet élément de passion qu'on a vu au Parlement, il y a un moment où de fait il peut y avoir une fenêtre. L'autre chose, c'est que Boris Johnson a fait beaucoup d'erreurs, mais là en l'occurrence, il vient quand même de démontrer qu'il était capable. Alors, c'est sans doute un accord de façade, puisqu'on a enlevé le mot de backstop. Et en fait, c'est ce qui va poser le problème avec les unionistes, c'est qu'on a forcément néanmoins un statut particulier de l'Irlande du Nord, puisque visiblement, je ne sais pas quel est le détail de l'accord, mais ça revient au fait que l'Irlande du Nord va être à la fois partie du Royaume-Uni et pleinement partie du Royaume-Uni, et en même temps qu'elle sera intégrée d'une manière ou d'une autre dans le grand marché. Ouais. Donc quel est le détail technique, je ne sais pas, mais c'est cette idée-là. Ouais. Et donc cette idée, elle a permis d'enlever le mot de backstop, mais en fait elle laisse le problème de fond.
On va revenir là-dessus justement. Il y a juste Delphine New, qui est à Bruxelles, qui veut intervenir. Après Pierre-Jérôme Ménin, je vous passerai la parole. Delphine.
Oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce que disait à l'instant Nicolas Bavrez. On a effectivement enlevé le mot de backstop, mais l'Union européenne, comme j'ai dit tout à l'heure, maintient donc sa ligne rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière en dur entre les deux Irlandes, et que le tour de passe-passe qui a été trouvé, c'est que l'Irlande du Nord va donc sortir de l'union douanière pour rejoindre donc l'union douanière avec le Royaume-Uni, mais elle va s'aligner sur la réglementation de l'Union européenne en ce qui concerne les biens, et c'est ça qui va donc permettre le non-retour d'une frontière physique, et c'est exactement ça qui gêne les unionistes du DUP, puisque là, on singularise en quelque sorte l'Irlande du Nord, et ça, les unionistes, on les connaît, ils sont loyalistes, ils ne supportent pas tout ce qui singularise donc l'Irlande du Nord, puisque quand on fait ça, pour eux, c'est on ouvre la porte en quelque sorte à la réunification avec la République d'Irlande.
C'est ce que j'allais dire, et voir l'éclatement, en l'occurrence, de la Grande-Bretagne. Merci Delphine. Pierre-Jérôme Ménin, Yves Bertoncini.
Une seconde, et avant de passer la parole à Yves, pour compléter ce que disait Nicolas Bavrez, on voit aussi à quel point Boris Johnson est un animal politique hors pair, et qu'en quelques semaines, il a réussi quand même à retourner la situation, même si on est dans un...
A supprimé ce fameux backstop.
Voilà, on est dans un état transitoire avant le passage devant le Parlement. Pour compléter ce que vous disiez, on peut espérer aussi qu'il a pris des assurances auprès des dizaines de voix qui lui manquent au Parlement européen, des Nord-Irlandais, des Brexiteurs durs de son parti, et qui ne s'est pas lancé dans cette négociation et en accepté les termes tels que l'a exprimé Michel Barnier, sans avoir certaines assurances. En tout cas, il a réussi à faire rentrer le Brexit dans son agenda politique, personnel, sachant qu'il est à la poursuite d'un succès d'estime qu'il espère pouvoir remporter au terme d'élections générales, et être le Premier ministre qui a sorti le Royaume-Uni de l'ornière du Brexit.
C'était très important pour lui politiquement, c'est peut-être là aussi sur ce point.
Il a besoin d'un deal. Il avait besoin d'un deal.
Et Michel Barnier a joué aussi là-dessus, c'est-à-dire il avait besoin de ce deal pour être élu Premier ministre.
Absolument.
Yves Bertoncini.
Oui, mais alors, Michel Barnier vient d'expliquer les concessions qui ont été faites par l'Union européenne. On verra si Boris Johnson peut expliquer le mouvement qu'il a fait au regard de la proposition initiale qui était la sienne et qui était plus un tract électoral qu'un accord, un projet d'accord acceptable pour l'Union européenne. Oui. Et on verra si le DUP, mais au-delà, DUP,
on écoute cette fois-ci le président Macron.
Accepteront ce nouvel accord.
Président Macron qui s'exprime sur le Brexit. Si on peut écouter. Ah non, donc le président Macron, décidément, c'est soit il en parle, soit en tous les cas, ce qu'il a dit, qui est important, c'est que c'est vraiment, il y a d'autres étapes à passer, c'est ce que vous disiez, Yves Bertoncini.
Oui, et donc dès samedi, on verra. Donc le DUP a déjà dit, ça sera sans nous, ils sont que 10. Qui seront les autres? Et c'est vrai que comme ça, tout se situe, je parlais de tract électoral, dans un contexte pré-électoral. Je pense que d'ailleurs, c'est sans doute nécessaire de clarifier tout cela au Royaume-Uni, que peut-être d'ailleurs dans l'accord qui sera signé, ce qui va arriver samedi, à mon avis, c'est pas que cet accord sera ratifié, ça serait quand même un exploit. Et alors là, à ce moment-là, je dirais chapeau l'artiste pour Boris Johnson. Mais je demande à voir. Non, ce qui en revanche pourrait être accepté, c'est le gouvernement demande 3 mois d'extension jusqu'à fin janvier, mais en échange, dans la période, on convoque des élections générales qui clarifieront tout. Et à ce moment-là, le nouveau Parlement, lui, dira le mot final sur la sortie, ouais. Mais surtout, il pourra engager la négociation sur la suite. Et cette négociation, Michel Barnier nous l'a rappelé, elle sera infiniment plus complexe. Hein, parce que le divorce aura été consommé, mais effectivement, quel pacte, quel partenariat pour la suite? Et c'est là-dessus que, d'ailleurs, même pour les Européens, il y aura besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de cohésion, et ça prendra à nouveau, c'était la question de Manuel Schipp, ça prendra encore quelques semestres, pour ne pas dire quelques années, mais au moins, on aura préservé, si cet accord est ratifié, la stabilité réglementaire. Parce que n'oublions pas que le Brexit ne sera
pas institutionnel, virtuel. D'accord, mais est-ce qu'on risque pas de se retrouver, virtuel. Admettons qu'on vote,
Emmanuel
qu'on ait un nouveau
après
Parlement, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans la même situation parlementaire?
Mais bien sûr qu'on risque, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Brexit. Depuis le début, un référendum, 52% de justesse, ça coalise plusieurs noms à l'Europe, totalement différent. Et par exemple, il y a un nom à l'Europe qui était un nom, on dirait en France, ultralibéral, puisque c'est l'Union soviétique européenne, et donc on va s'affranchir de tout cela, on va faire du business avec Singapour. Et puis il y avait quand même un nom, on va dire, un peu plus protectionniste, notamment des classes populaires qui voulaient plus des travailleurs polonais et tout cela. Vous ne pouvez pas arriver, même avec la démocratie représentative, à mettre d'accord ces deux noms-là. Et donc, en effet, les élections générales, elles ne vont peut-être pas, j'allais dire, permettre au Royaume-Uni de sortir de cette quadrature du cercle. Mais au moins, ça sera le dernier stop avant l'abîme, je dirais. Mmh. Et peut-être que, malgré tout, les concessions seront faites pour au moins acter le divorce et ensuite négocier le pacte avec les Européens.
Nicolas Vavrez.
Alors d'abord, on s'aperçoit tous une nouvelle fois que le Brexit, c'est le Brexit sans fin. C'est-à-dire que c'est un processus qui est très long, même si on arrive à faire passer cet accord. Il est vrai néanmoins qu'aujourd'hui, Boris Johnson est en position de force dans son pays. Parce que de fait,
il a obtenu justement la soumission.
Si cet accord est refusé, y compris si cet accord est refusé, là, il peut aller aux élections en position de force, en expliquant qu'il a eu un accord qui était le meilleur, qu'il pourra, parce que politiquement, il va faire campagne sur une seule chose, je suis l'homme qui a supprimé le backstop. Ça n'ira pas au-delà, l'accord est sans doute très complexe derrière, il ne rentrera pas dedans, mais voilà quelle va être sa position. Et c'est une position qui sera forte, parce que je crois que la société, l'économie britannique, même le système politique britannique, est aujourd'hui laminé par cette affaire du Brexit.
Oui, j'entendais qu'il y avait 80% des Britanniques qui ne regardaient plus la télévision parce que justement, ils ne voulaient plus entendre parler de quoi que
ce soit.
Alors,
on a parlé là beaucoup des Britanniques et c'est bien normal, ça les intéresse directement, mais je pense que l'autre chose, c'est qu'il faut quand même pas oublier l'Europe. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps sur le Brexit, il va falloir y passer encore beaucoup de temps et ça sera sans doute la poursuite de la tâche de Michel Barnier, mais ce qui est fondamental pour l'Europe, c'est que derrière, on a tous nos problèmes qui restent, qui sont les problèmes décisif. Une économie en voie de japonisation, un grand marché qui est la variable d'ajustement entre les États-Unis et la Chine, les djihadistes tout autour, voire chez nous, et les démocratures de Monsieur Xi, Monsieur Poutine, de Monsieur Erdogan en pleine forme, et Monsieur Trump qui vient, qui fait de l'Europe une cible de sanctions commerciales.
Si on rajoute à tout ça la guerre technologique, etc., le cas irlandais, ça fait quand même un peu cours de récré, quoi.
Non, mais il va donc falloir très vite qu'on cantonne de toute manière ce problème Brexit, si possible, sur la base de cet accord, et qu'on s'attaque au problème de fond.
Ça, c'est,
et ça, c'est ça, vraiment la priorité.
Vous avez bien raison, j'en parlais ce matin avec Aymeric Coletta.
Voilà, et ça suppose de remettre en route un couple franco-allemand qui est aujourd'hui...
qui fonctionne.
Est-ce qu'on n'est pas trop patient avec les Anglais?
On va revenir là-dessus, Pierre-Jérôme Hénin. Et après, j'ai une question pour vous, Emmanuel Luchy, pour voir si justement, est-ce que c'est un danger d'avoir une Grande-Bretagne à côté de nous? Pierre-Jérôme Hénin.
Ce qui vient d'être dit est majeur, et en fait, c'est ça l'enjeu. Oui, c'est une victoire, en tout cas une bataille, peut-être pas la guerre, concernant le Brexit aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que les chefs d'État ou de gouvernement puissent aussi se concentrer sur d'autres sujets. Ça fait 3 ans et presque 6 mois qu'on est pollué par cette histoire de Brexit. Le Conseil européen, cet après-midi, va parler de ce texte, mais demain va enfin, de manière un peu plus sereine, pouvoir se consacrer à d'autres sujets majeurs. Certains d'actualité extrêmement immédiate, comme ce qui se passe en Turquie. D'autres d'une actualité moindre, mais néanmoins extrêmement important, comme le budget. Et la France est très directement concernée, puisqu'elle reçoit beaucoup d'argent de l'Union européenne. Elle en donne, mais elle en reçoit beaucoup. Et puis, il y a aussi inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil européen le plan stratégique. Quelles vont être les priorités de la Commission européenne en matière économique, en matière environnementale, en matière de sécurité? Il est temps que la concentration puisse à nouveau être dirigée vers des sujets majeurs et qui nous concernent tous.
Oui, et du reste, on me dit qu'à 14h15, Boris Johnson et Jean-Claude Juncker vont se rencontrer, en l'occurrence, pour discuter de cet accord. C'est dangereux, ce qui est en train de se créer à nos portes, Emmanuel Lechypre? Je précise ma pensée en l'occurrence. Est-ce qu'un Royaume-Uni avec la possibilité de signer des accords avec d'autres pays, est-ce qu'on est en train de créer un Singapour, comme on le dit, à nos portes?
On voit bien que sur l'aspect financier, il y a quand même eu déjà, ça a coûté déjà très cher, hein, le fait que vous ayez des banques qui repartent un peu ailleurs en Europe. Ce côté c'est assez dangereux finalement. Moi, je crois qu'avec cette affaire, en se pensant comme un Singapour de l'Europe, les Anglais se voient plus beaux qu'ils ne sont en réalité. Il y avait cette ambition aussi de se dire, on va être peut-être, on va se retourner davantage vers les États-Unis, mais quand vous voyez le traitement que réserve Donald Trump aux Britanniques, on a l'impression que ça a été un mauvais pari aussi. Et vous ne pouvez pas rivaliser. Il y a beaucoup de sujets, de domaines dans lesquels la compétitivité du Royaume-Uni est sérieusement diminuée par le fait de ne plus appartenir à l'Union européenne. Comment des entreprises pourraient-elles décider d'aller s'installer au Royaume-Uni si il n'y a plus l'accès à l'Europe, même si vous leur accordez quelques avantages fiscaux?
Oui, mais justement.
Yves Bertoncini, Pierre-Jérôme Hénin, Nicolas Bavrez, et on écoutera le président Macron. Je vous promets que ça sera cette fois-ci sur le Brexit.
C'est bien le problème, c'est exactement ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire que les investisseurs resteront ou viendront? C'est parce que les autorités britanniques seront susceptibles de leur accorder les avantages comparatifs, compétitifs en matière fiscale, mais pourquoi pas aussi en matière réglementaire. Et c'est là qu'on reviendra sur cette affaire de frontière entre les deux Irlandes, parce que qui contrôlera que si par exemple il y a un accord Royaume-Uni-Amérique, un poulet chloré qui arrive à Londres, il n'est pas en train d'aller en Irlande du Nord sans contrôle et venir ensuite sur le continent européen? Cette divergence fiscale, réglementaire et de toute nature, les règles de concurrence, contrôle des aides d'État, c'est ce sur quoi la chancelière Merkel a d'ores et déjà mis en garde pour la suite. Et il faudra être attentif à ça.
On rentrera un autre jour dans les détails techniques, mais en fait, il y a un système qui va être mis en place pour les produits, par exemple, arrivant de Grande-Bretagne à destination de l'Irlande du Nord. Il y a une différenciation qui va être faite entre ceux qui vont rester en Irlande du Nord et ceux qui ont vocation à aller, par exemple, en République d'Irlande ou alors dans l'Union européenne. Mais ce sont des spécificités techniques particulières. Concernant cette singapourisation du Royaume-Uni potentiel, il y a un texte, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est annexé, qui est en annexe du grand accord sur lequel ils viennent de décider, qui est la déclaration politique qu'on évoquait tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on va retisser des liens, c'est quoi la nature du Pax à l'avenir. L'un des soucis de l'Union européenne, c'est en effet, Yves le rappelait, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de singapourisation du Royaume-Uni et qu'il n'y ait pas de dumping fiscal, social, réglementaire, etc. Il faudra voir la lettre de ce texte, parce que normalement, c'est écrit noir sur blanc, c'était une des pierres d'achoppement, et Boris Johnson a dit qu'il voulait effacer cette référence-là. On va voir ce qu'il en est du texte définitif.
Nicolas Bavrez.
La première chose, c'est que je pense que le choix du Royaume-Uni reste un contresens historique absolu. Donc le Royaume-Uni va être un pays de 65 millions d'habitants face à des géants. En quoi est-ce que seuls ils pourront discuter de commerce? On l'a d'ailleurs très bien vu, le Japon, l'un des autres, on dit si vous voulez un accord commercial, très bien, on prend l'accord qui a été signé avec l'Europe, on veut bien le re-signer avec vous, on ne va pas perdre de temps supplémentaire. et la négociation par exemple avec l'Inde, avec la revanche coloniale, va sans doute être un peu compliquée. Donc c'est un contresens en matière de sécurité, en matière d'environnement, en matière commerciale, en matière de technologie. Ensuite, l'affaire de la singapourisation, je trouve que une fois de plus, on se trompe et on s'occupe de la queue du chien. Autrement dit, y compris si le Royaume-Uni veut jouer la singapourisation, en fait, la vraie réponse, elle n'est pas chez les Britanniques, elle est chez nous. Si l'Europe est proprement gérée, si elle arrive à faire de la souveraineté, de la sécurité, alors qu'elle a 500 millions d'habitants, une monnaie unique, un état de droit qui fonctionne, très franchement, le match est plié. Donc, en réalité, ça ne dépend que de nous. Et y compris la logique de la singapourisation, elle ira très peu loin si l'Europe se met enfin à traiter ses problèmes et à repartir du bon pied.
Ce matin, il y a une illusion aussi, c'est que
qu'est-ce qu'on appelle la singapourisation ? Parce que dans une économie dématérialisée, et le monde de la finance aujourd'hui, il est totalement dématérialisé. Quand vous dites singapourisation, mais il y a déjà Singapour. Qu'est-ce que vous allez recréer la même chose ? Et après, c'est peut-être une affaire.
Une fiscalité différente.
Oui, mais fiscalité différente pour faire. Si vous pouvez le faire à Singapour, je veux dire, c'est pas. Vous voyez, la finance, vous pouvez la faire à Singapour, vous pouvez la faire à New York, vous pouvez la faire partout. Donc ça, c'est pas un sujet. Après, sur de la production physique, là, vous voyez bien que le désavantage, quand même, que vous avez à avoir recréé, le rapport de force, Nicolas a raison, il est extrêmement favorable à l'Europe. C'est la grande différence, c'est que Singapour, sa seule possibilité pour exister entre deux géants que sont, par exemple, l'Inde et la Chine, c'était justement d'être ultra compétitif sur tout un tas de services, d'être le premier sur tout un tas de services.
Même avec une fiscalité privilégiée, c'est pour accéder à 65 millions d'habitants, c'est pas très intéressant.
Exactement.
Si je suis au Luxembourg, c'est vrai que c'est tout petit, c'est vrai qu'il y a une fiscalité privilégiée.
Parce que la grosse
Il y a 500 millions d'habitants.
Nicolas, c'est que Singapour, c'est la porte d'ouverture sur la Chine pour beaucoup d'entreprises.
Alors,
et pour beaucoup de financiers.
Là, vous n'avez pas ça. En l'occurrence, Pierre-Jérôme Ménard, moi, je voudrais juste une question là-dessus. Je fais un tout petit détour. Ce matin, Enrico Letta, que je recevais, l'ancien président du Conseil italien, président de l'Institut Jacques Delors, il disait le problème de ce Brexit, c'est que la question de départ était très mal posée. Ce n'est pas du tout la question qu'on aurait dû poser, que les Britanniques auraient dû poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je ne sais pas, il faut le dire à David Cameron.
Oui.
Toujours est-il que bon,
que du coup tout le monde s'est trouvé piégé.
Oui, bien posé, mal posé. Ok, on va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on a à faire avec une situation qui dure depuis 3 ans et demi et s'en sortir par le haut. Essayer. Cette histoire de Brexit, quelle que soit l'issue, si elle est positive, si le Parlement britannique ce 19 octobre valide l'accord, etc., est une triste histoire.
Ouais.
C'est une triste histoire.
C'est
une triste histoire parce que vous avez un membre de la famille qui quitte la famille, qui était là depuis le début des années 70, un membre essentiel.
Oui, mais qui a toujours joué un rôle négatif.
Oui,
vous avez entendu, j'imagine, les propos de Dominique Strauss-Kahn dans la conférence de Marrakech.
Qui peut-être est venu à la différence de la majorité des pays continentaux qui font partie de l'Union européenne, qui eux sont venus avant tout pour des raisons politiques, ce qui n'est probablement pas le cas du Royaume-Uni, ce qui en fait la grande différence et qui est venu principalement pour des raisons économiques, pour faire du business, un vaste supermarché. Donc oui, on élargit, on accueille de plus en plus de pays. Comme ça, l'idée, la perspective d'une Europe politique disparaît de plus en plus totalement. Or, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et j'espère, une nouvelle fois, qu'une fois cette histoire de Brexit passée, on va pouvoir retisser des liens profonds entre nous, au vu de toutes les divergences qui existent entre l'Est et l'Ouest notamment, le Nord et le Sud, et qu'on va pouvoir mettre sur la table un vrai projet politique et rassembler ces 500 millions d'Européens derrière nous.
Juste dire un mot là-dessus.
Oui.
D'abord, on ne peut pas dire que les Britanniques ont eu un rôle seulement négatif. Je rappelle que, par exemple, en matière de sécurité, c'était le tiers du potentiel militaire du continent, et que les Britanniques ont joué un rôle extrêmement précieux. Il suffit de regarder, par exemple, les guerres de l'ex-Yougoslavie. En dehors des Britanniques et des Français, ceux qui ont vraiment pu faire quelque chose étaient peu nombreux en Europe, et il y a beaucoup d'autres théâtres où les Britanniques ont été précieux.
La deuxième chose, c'est qu'en matière
exactement en matière économique, le fait d'avoir un peu de libéralisme dans cette Europe, ça n'a pas été mauvais. Donc à partir de là, c'est vrai que David Cameron a été le premier ministre britannique le plus désastreux depuis Chamberlain. Il a eu une décision absurde. La question était absurde. Des deux côtés, ça ne fait que des perdants parce que c'est vrai que le Royaume-Uni sera beaucoup moins fort après qu'avant. L'Europe est moins forte après. près qu'avant. Il n'empêche qu'il faut sortir de cette situation et que ça, c'est la responsabilité de David Cameron qui peut aujourd'hui réécrire l'histoire en faisant ses mémoires. La réalité est qu'il a déjà failli perdre l'Écosse et qu'il fallait être complètement irresponsable pour remettre la question sur l'Europe. Il l'a fait, il l'a perdu. Il emportera la responsabilité devant l'histoire.
Oui. En même temps, on voit bien qu'il faut, encore une fois, il faut vraiment parler encore au conditionnel, hein, parce que l'opposition travailliste est opposée à cet accord. Les indépendantistes, pas les indépendantistes, les Irlandais du DUP sont aussi opposés à cet accord. Donc on voit que la majorité n'est pas trouvée. On va repartir dans un instant, justement, retrouver à Bruxelles Delphine You. Un mot, peut-être, Yves Bertoncini, sur ce qu'on disait à l'instant.
Non mais Singapour, c'est le mythe qu'entretiennent les Brexiteurs pour, au moment d'un divorce qui de toute façon sera douloureux, dire, bah, permettre d'expliquer que oui, il va y avoir 2-3 années difficiles, mais après on refera notre vie. Voilà. Alors, Singapour, c'est la future mariée. Je suis pas sûr que ça soit une réalité, mais quand même. C'est juste de dire pourquoi on irait investir dans un petit pays de 65 millions plutôt que sur le continent. Mais justement, les Britanniques vont jouer sur les deux tableaux. Ils vont dire, si vous venez là, vous aurez un accès facilité à l'Union européenne et en même temps, on vous donnera peut-être quelques avantages plus ou moins formels. D'où l'aléa moral vis-à-vis des Européens qui, en effet, devront et pourront muscler leur jeu. C'est-à-dire que si les contrôles ne sont pas faits comme il faut en mer d'Irlande, eh ben, on demandera aux Irlandais de les faire vis-à-vis de l'Irlande du Nord. Et puis, si on n'a toujours pas confiance, on les remettra à Calais et Douvres. Mais du coup, c'est quand même un divorce qui sera coûteux pour nous aussi, même si nous ne l'avons pas demandé. Et c'est bien dramatique, en effet, parce qu'on aurait besoin de davantage d'unité européenne dans un monde dont nous ne sommes plus du tout le centre.
Souveraineté européenne.
Nous sommes de moins en moins l'acteur.
On va avoir peur de ce gros mot.
Mais il y a un sujet.
Emmanuel, après, c'est Delphine. Enfin,
c'est un petit bout de lorgnette, mais il y a quand même un sujet qui va être passionnant. C'est le sujet des technologies douanières qui vont être mises en place pour essayer de donner une forme de rationalité et de crédibilité à cet accord qui a été trouvé. Parce que là, il va falloir être innovant.
Oui. Absolument.
Delphine Liu, donc, est à Bruxelles pour nous. Delphine, est-ce que vous avez eu déjà quelques précisions? Je sais que vous vouliez intervenir. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelques précisions sur ce qui va se passer maintenant? Rencontre à 14h15, donc, entre Boris Johnson et Jean-Claude Juncker. Vous en savez un petit peu plus ou pas?
Oui, alors effectivement, le Premier ministre britannique et le président de la Commission européenne vont se rencontrer tout à l'heure. D'ailleurs, tous les dirigeants européens ne vont pas tarder à arriver puisque ce Conseil européen est censé démarrer à 15h. Bien sûr, ils vont avoir le texte entre les mains et ça devait donc être un sommet de validation. Et Jean-Claude Juncker va donc demander aux dirigeants européens d'entériner cet accord qui a donc été signé à l'arraché il y a maintenant 2 heures, et donc ça devrait en principe être une formalité. Aucune raison pour que les dirigeants européens ou un dirigeant mette son veto donc à cet accord qui est intervenu il y a quelques heures désormais.
Donc du côté européen, évidemment, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un risque, je ne sais pas, Pierre-Jean Ménin, est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de la Grande-Bretagne? Parce qu'on voit du côté de l'Irlande du Nord, donc les Irlandais du Nord, quand même là, ça veut dire qu'ils se séparent quelque part de la Grande-Bretagne. On sait que la majorité... Ouais, bah, quand même un peu,
non,
hein, si
non,
vous voulez.
Non,
la frontière, elle frappe entre le Nord et le Sud.
Il y avait quelques lignes rouges qu'a réexprimé Michel Barnier pour l'écriture de cet accord. Préserver l'unité du marché intérieur, l'intégrité du marché intérieur, et pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Ces lignes rouges ont été respectées. Il y a une frontière pour les biens qui sera matérialisée par...
entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.
Et pas les lignes rouges des Nord-Irlandais, puisque effectivement... pas de frontière avec les Irlandais du Sud, entre guillemets, mais en revanche, des frontières plus ou moins virtuelles avec le reste du Royaume-Uni.
Elle demeure, ma question, Nicolas.
C'est pour ça que ça va être dur de faire passer.
Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que il était frappant de voir qu'au moment du référendum, on a beaucoup mis en avant la question écossaise, mais pas du coup tout la question irlandaise qui s'est révélée décisive pendant les négociations. Aujourd'hui, il ne faut pas refaire la même erreur. tout le monde s'occupe de l'Irlande, mais je rappelle que Mme Sturgeon a fait, dans les derniers jours, un discours extrêmement, d'ailleurs, extrêmement puissant, extrêmement bon, sur le thème de l'indépendance. Et donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, avec le backstop qui était au cœur de ce nouvel accord, on s'occupe beaucoup de l'Irlande du Nord, mais que derrière, on va avoir la question de l'indépendance de l'Écosse qui va se reposer très vite, et à mon avis, dans des termes extrêmement différents.
N'oublions pas que les Irlandais du Nord avaient voté 56% pour rester, mais les Écossais à 61%. Et donc, il ne faut pas s'occuper effectivement que du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord. Il faut s'occuper de la Grande-Bretagne, parce qu'à l'intérieur de la Grande-Bretagne, il y a les Écossais. Et en effet, s'ils voient, mais ça ne va pas être immédiat, s'ils voient que dans la relation future, et c'est pour ça que c'est clé, la relation future, qui sera négocié, c'est pas encore fait, même s'il y aura une déclaration politique qui donnera un cadre. S'ils voient qu'à ce moment-là, la Grande-Bretagne s'éloigne trop du continent et de l'Europe, alors eux, ça leur donnera un puissant motif pour, au moment d'un nouveau référendum d'indépendance, dire, écoutez, nous, on n'avait jamais demandé à sortir en tant que nation écossaise. À ce moment-là, on vous demande de sortir, non pas de l'Union européenne, mais de la Grande-Bretagne.
Une question, peut-être dernière question du reste, pour celui qui a donc aidé le porte-parole de Michel Barnier. Est-ce que ça veut dire que Pierre-Jérôme Hénin, il aurait peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être lui qu'on va nommer commissaire au marché intérieur pour remplacer Sylvie Goulard et surtout garder ce grand périmètre? On sait qu'il n'en veut pas, puisqu'il l'a déjà été, mais là, il y a un périmètre élargi. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'en pense qu'il faut poser la question à deux personnes, à Michel Barnier et au président de la République.
Et ça passerait comme une lettre à la poste, en revanche. Pas comme l'accord qui vient d'être négocié à Westminster.
Oui, mais il faut garder en tête qu'en effet, et chose qu'on oublie trop souvent, il a déjà occupé le poste de commissaire au marché intérieur.
Et donc, il n'a pas envie de revenir en arrière.
Je ne sais pas s'il n'a pas envie de revenir en arrière, et ce d'autant moins que le portefeuille, en effet, est très large, et qu'en fait, le vrai objectif, au-delà des questions de personnes, pour le président de la République, et la France et le projet européen, c'est d'arriver à garder un portefeuille aussi large avec le marché intérieur, avec l'espace, avec la défense, avec le numérique.
C'est le numérique, parce qu'il faut quand même rappeler que voilà, c'est l'ambition numéro un. C'est ce poste à la direction du numérique.
Je serais bien mal placé pour dire qu'il est un mauvais candidat, mais c'est vraiment à lui de voir ça et au président de la République.
Oui. Nicolas Bavrez, un mot de conclusion.
Eh ben, ouf. Non, ce qu'on a dit, c'est apparemment c'est un bon accord et c'est un exercice extrêmement difficile, donc on peut saluer les négociateurs, mais c'est pas du tout la fin du Brexit comme on l'a dit. Je voudrais peut-être on vient de parler du portefeuille. Moi, j'ai une vision inverse. Je pense que ce portefeuille est complètement déraisonnable, qu'on mélange tout et n'importe quoi, qu'il y a au moins et je pense que la France gagnerait à se concentrer sur quelque chose qui est vital et qui aurait de la cohérence, qui serait défense et spatiale. Je pense que là-dessus, il faut faire des avancées majeures, que ça justifie d'avoir un commissaire qui ne s'occupe que de ça.
Et l'idée de faire
le numérique, la politique industrielle, le numérique, le spatial et la défense, c'est la certitude que tous ces dossiers seront mal gérés. Oui. Et donc, moi, je préfère avoir un système où on est plus modeste, plus raisonnable, mais où on a des résultats.
Ben oui, mais on est français, vous savez. Merci beaucoup Nicolas Bavrez d'avoir été avec nous. Merci Serge Roumain. Merci Yves Bertoncini. Tout de suite.